Et nous sommes de retour sur Radio Plus en direct de Nausicaa, avec un tout petit retard. C'est la suite de l'émission spéciale Globe Reporter en direct de Nausicaa. On est ensemble jusque 15h55 et on va donc attaquer la seconde partie côté Terre avec Romy et Wassila. On revient sur Terre dans cette deuxième partie.
Oui, Jean-Philippe, dans la deuxième partie du reportage, on vous propose d'explorer cette fois l'intérieur des terres.
Loin des hôtels de luxe, les habitants inventent un autre tourisme. Énergie renouvelable, permaculture, réhabilitation de friches, plantation bio, c'est la révolution verte.
Avec le soleil toute l'année, des cascades, des volcans et des grosses tempêtes à répétition, on s'est dit que la Réunion peut produire à elle seule tous les catalogues d'énergie renouvelable. Coralie Valdebouze est chef de projet en énergie renouvelable pour Akuo Energy et elle connaît bien le sujet.
Un endroit qui va être très venté et qui ne sera pas forcément très ensoleillé va favoriser l'émergence de projets éoliens plutôt que de projets solaires. Pareil pour des zones de montagne qui vont favoriser par exemple l'énergie hydraulique ou les zones volcaniques qui vont favoriser la géothermie. Et en fait, c'est justement la compatibilité et la mise en place des différentes énergies qui permet de faire sur un territoire un mix énergétique intéressant et qui permettra d'avoir un territoire une autonomie. Parce que les deux gros objectifs des îles, c'est d'atteindre des autonomies énergétiques et alimentaires.
Et en plus, sur une île, il y a souvent un problème de place. Ce n'est pas dans les champs de panneaux solaires qu'on fait pousser des légumes. Alors à Barzour, Akuo Energy a trouvé la solution, des panneaux photovoltaïques sur des toits de serre.
Nous, le concept donc, de coupler l'énergie photovoltaïque et l'agriculture, on a conceptualisé ça sous le nom de l'agri-énergie. Et en fait, donc, l'intérêt pour l'agriculture de mettre en place une centrale solaire, par exemple, ça permet de sécuriser la production, notamment pendant les épisodes de fortes pluies ou de cyclones. Donc on n'a aucune perte. Et l'intérêt pour l'énergie d'avoir une compatibilité avec un projet agricole, c'est que déjà on est sur un site où la chaleur sera moins importante que si c'était sur un terrain vague, par exemple. Et du coup, les panneaux solaires ont un meilleur rendement s'ils sont à des températures aux alentours de 25 degrés.
Même s'il y a plus de soleil là-bas que chez nous, le solaire reste une énergie intermittente. Alors dans cette centrale pionnière du genre, on a rajouté des piles pour stocker le soleil.
Quand il y a beaucoup de soleil, il va y avoir une partie injectée dans le réseau, mais une partie qui va être stockée dans les batteries. Et quand il va y avoir un passage de nuages, il va y avoir moins de production, mais la relève va être faite avec le stockage qui va justement stabiliser cette baisse de production et permettre d'injecter dans le réseau quelque chose de stable toute la journée, sans que ça provoque par la suite éventuellement des blackouts.
S'il ne pousse pas aussi vite sous le toit des 6000 m² de serre, les fruits et légumes cultivés en permaculture y sont par contre à l'abri des cyclones et des insectes. Sidonie, notre envoyée spéciale, fait la visite en compagnie de Coralie.
Donc là, on voit à travers, donc là, il y a des courges, par exemple, on voit bien. Il y a de la salade, il y a des breads, il y a de l'ail, de l'oignon, il y a du curcuma de l'autre côté, pas mal d'agrumes, d'ananas. Il y a du maïs qui permet d'être un piège à insectes également, pour éviter qu'ils rentrent dans les serres. Il y a des fruits de la passion.
Et alors, la production, elle va où ensuite ?
Alors, la production, elle est écoulée sur le marché local, donc avec des restaurateurs ou directement au panier bio vendu directement aux consommateurs. Là, on peut voir à la sortie de cette serre qu'il y a quelques ruches. Donc, il y a également du miel qui est produit sur site.
En plus du miel et des légumes, la centrale fournit 9 MW d'électricité propre pour un tiers des foyers de la commune du port. Mais Barzour n'est vraiment pas une centrale comme les autres. Ces 27 000 panneaux solaires sont installés tout autour d'une prison.
Alors là, on est au milieu des serres photovoltaïques, à l'entrée du centre de détention. En fait, on est sur une ancienne friche qui servait de no man's land, c'est-à-dire de zone de tampon entre l'extérieur et les quartiers de sécurité.
Et là, derrière ce grand mur de barbelés qu'on a devant nous, c'est le centre de détention.
Alors celui-ci est un quartier semi-liberté qui est juste à côté des serres. Alors au niveau des serres, il y a une personne d'Agriterra, donc une société agricole, qui forme 6 détenus en permanence. De ce qu'on sait, il y en a quand même, je dirais peut-être 60% qui retrouvent une activité derrière, directement ou indirectement liée à l'agriculture. Oh bah si, c'est ouvert, on va passer sur la Bretagne. En fait, lors de ce projet, donc, on a mis également en place un arboretum de plantes endémiques et indigènes à La Réunion, sur une surface de 2 hectares. Donc on a fait un partenariat avec le Conservatoire botanique qui nous a fait également le don de certaines plantes assez rares à La Réunion. Au sein de cet arboretum-là, on a mis également en place un parcours de santé qui permet aux détenus et aux personnes qui travaillent sur le site de venir faire leur sport aussi.
Une démarche globale, donc, qui permet à La Réunion de gagner en autonomie avec des technologies innovantes tout en protégeant son patrimoine. À Maurice aussi, on prépare le futur en recyclant le passé. Direction l'aventure du sucre, un écomusée qui raconte l'histoire de la canne à sucre.
La canne a des super pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle a la faculté d'être complètement 100% recyclable.
Sandrine Dunienville, directrice de communication.
Et réutilisable. On va tout utiliser dans la canne à sucre. Donc il y a par exemple la bagasse. Cette fibre qu'on va récupérer après le broyage des cannes, bah cette bagasse, on va la prendre, on va l'amener dans une centrale thermique, on va la brûler et ça va produire de l'électricité. Donc il faut savoir qu'à Maurice, par exemple, 25% de l'électricité du pays est produite grâce à la bagasse, donc grâce à la canne à sucre.
Alors là, on a notre fameuse cheminée quand même, qui est très importante, la cheminée de Beauplan. Donc là, on rentre dans la partie qui est dédiée à l'histoire. Là, on a l'histoire de Beauplan donc, qui est racontée. Donc, voilà comment était l'usine à l'époque. Et donc là, c'est le journal de l'Express de l'époque. Donc Alain Gordon Gentil qui racontait avec émotion la fermeture de Beauplan le 22 juillet 1999.
Comme la canne, l'usine se recycle. La cheminée et les machines servent maintenant au tourisme. Alain travaillait à l'usine de Beauplan. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui coupe la canne, ce sont les touristes.
Presque toutes les mercredis, je prends des clients et j'emporte dans le champ de canne. Et puis, je raconte un petit peu l'histoire de la canne et puis l'histoire de ces travailleurs qui ont travaillé ici. Tout ça, je raconte tout. Et puis, j'ai fait une petite initiation, comment on coupe la canne. J'ai fait eux-mêmes couper la canne et puis ils sont tout contents. Et puis, j'emporte la canne au musée. Et là, je fais broyer la canne. On va retirer le jus, on va faire goûter le jus. Et puis, il y a un petit cocktail qu'on fait et tous sont contents.
Il y a déjà longtemps, ils rêvent le moment. Sont avec Benoît Pinceau, sont du bon vieux temps.
C'est pour la radio.
Quelle radio ?
C'est une radio locale dans le Pas-de-Calais. C'est des enfants qui font l'émission, enfin des jeunes, des enfants.
Ah, vous êtes des métropoles alors?
Ouais. Ah. Il faut les tailler tous les combien de temps?
Tous les ans. Comme la ville, tous les ans on est obligé d'intervenir pour pouvoir avoir des nouvelles pousses un peu. C'est important pour la circulation d'air, pour éviter les insectes qui viennent se cacher à l'intérieur. Et puis en même temps, ça nous permet d'avoir des plus jolies graines. Quoi. Vous voyez la forme des graines, vous voyez, elles sont plus allongées.
D'où le nom de Bourbon Pointu.
Voilà.
Des champs de canne à sucre aux plantations de café, il n'y a qu'un pas. Et c'est à trois voix qu'on vous raconte cette histoire. L'auteur, Alexandre Dijoux, William, guide au domaine du café grillé, et la productrice du café bio, Martine Stitchy.
Le café a fait l'histoire de l'île. C'est la première économie de plantation de La Réunion. C'est la première colonie française à avoir accueilli le café sur sa terre.
Mon île est née avec le café. D'ailleurs, on est au domaine du café grillé. Mais le café, nos ancêtres l'ont abandonné pour trois raisons très simples. Les cyclones, il y en avait beaucoup trop, et on récolte dans la saison des cyclones. Ensuite, il fallait beaucoup de main d'œuvre, et nous, on est issus d'un peuple qui a connu la traite humaine, à l'abolition de l'esclavage. Quand mes ancêtres ont gagné leur liberté, il n'y avait plus assez de main d'œuvre.
À l'époque, le Bourbon Pointu était apprécié par Louis XV. Et donc, le Bourbon Pointu a été relancé sur l'île vers les années 2000, surtout avec l'envie des Japonais de goûter à ce fameux café que Louis XV a bu.
Le soutien des Japonais qui s'engagent systématiquement à acheter des productions si jamais La Réunion voulait relancer sa culture, eh bien pousse la région Réunion à mettre en place un plan d'expérimentation. C'est la Coisse-Poissuite, c'est le retour dans les jardins créoles à la recherche des cultivars, c'est la mise en place d'un concours pour retrouver les semences.
Bien qu'on n'avait plus de production de café sur l'île, on avait toujours des personnes qui gardaient chez eux quelques plants de café pour leur petit café perso. Hein, moi, ma grand-mère, par exemple, dans son jardin, elle avait toujours 10 plants de café. Elle faisait son petit café elle-même.
Tout ça, ça va donner un retour vers la culture du café, vitesse de croisière, comme on dit, à partir de 2007.
Sur les hauteurs de Saint-Paul de la Réunion, à 1000 mètres d'altitude face à l'océan, Mongis Liti taille ses caféiers bio. Les cerises rouges allongées de bourbon pointu sont ensuite cueillies, débarrassées de leur pulpe sucrée, séchées au soleil et torréfiées. Un travail minutieux qui en fait un café vraiment unique.
Le bourbon pointu, à la différence des autres arabica, il est beaucoup plus acidulé, beaucoup plus fruité. Il a une très bonne longueur en bouche. C'est un café qui est très faible en caféine.
Ce café bourbon rond, bourbon pointu, on a découvert que si on le fait pousser ailleurs, dans un endroit où il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de tempête, où il y a un bon climat, où il pleut tous les après-midi, eh ben le café n'aura pas le même. Il reflète le terroir. Je prends un exemple, chez nos frères malgaches, nos cousins mauriciens, je vais planter chez eux, à côté, c'est pas très loin pourtant, hein, mais ça aura pas le même goût.
Ah, donc là-bas,
voilà.
C'est du café aussi.
C'est du café aussi.
Est-ce qu'ici, c'est un signe d'accueil, par exemple, quand on arrive chez des Réunionnais, est-ce qu'on va offrir le café ou pas forcément?
Mais oui, en général, c'est ce qu'on vous propose en premier, le café. Le top, c'était quand vous arriviez chez grand-mère. Grand-mère, le matin, grillait son café. Ensuite, elle faisait couler son café. Donc là, c'était dans la petite cuisine feu de bois. Donc on avait la fumée, l'odeur du café. Quand vous arrivez là, vous étiez les plus heureux du monde parce que vous aviez le café fraîchement torréfié, fraîchement coulé, etc.
Quand il n'est pas bu dans la cuisine de grand-mère, le bourbon pointu s'invite à la table des grands chefs. Anne-Sophie Pic en fait un bouillon pour son homard bleu et Pierre Vermet en parfume macaron et chantilly. Mais avec une production qui se compte seulement en kilos, forcément, les prix s'envolent.
Sa rareté fait le prix, évidemment. Je fais allusion au grand vin. Si la bouteille coûte cher, c'est parce qu'il y a très peu d'hectares ou de surface et qu'il y a tout un savoir-faire qui est associé avec. L'endroit où vous allez boire la tasse de bourbon pointu le moins cher, c'est bien évidemment la Réunion. En moyenne, 3,50 €. Et le prix va varier autour de 7 à 15 euros la tasse en métropole. Donc là, bien entendu, on n'est pas en train de parler du café quotidien. Là, on est en train de parler d'un café de luxe. C'est notre caviar, c'est notre produit identitaire.
De retour sur Radio Plus en direct de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, vous venez d'entendre la deuxième partie du reportage en mer des Indes.
Harold Dancio, bonjour.
Bonjour.
Il y a plusieurs producteurs de bourbon pointu à La Réunion. Pourquoi avez-vous choisi le couple Desliti comme exploitant agricole?
En fait, on est parti sur l'île et on a fait un peu nos recherches sur place de voir qu'est-ce qu'il y avait comme exploitation sur l'île. Et en fait, c'est un peu par hasard qu'on avait entendu la ferme Sleepy, mais en plus qui était un des seuls qui faisait vraiment une exploitation qui est presque en mode permaculture, enfin qui est en permaculture et agriculture biologique. Et donc ça m'intéressait évidemment d'aller trouver un produit de très haute qualité.
À Corica, on vend du café bien sûr, mais on le fait d'abord déguster. En quoi c'est important de raconter l'histoire, le terroir de chaque café?
Oui, c'est l'idée, effectivement. C'est de, en même temps, déguster le produit avant éventuellement de pouvoir l'acheter. Mais effectivement, nous, notre recherche est de trouver des origines qui sont très particulières aussi en termes de goût, de qualité. Et une des premières variétés qu'on a rentrées, c'était le café du Népal, parce qu'on trouvait que c'était une destination qui faisait déjà fort voyager, mais en plus s'avérait que l'exploitation et le goût donnaient un café d'une extrêmement haute qualité. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours travaillé dans ce sens-là.
La torréfaction est une étape délicate à la préparation du café. Comment repère-t-on que le café est bien torréfié?
Ben, en fait, quand on veut vendre un café, on reçoit des échantillons, des petites quantités de café. Et on a une machine à faire des mini-torréfactions qu'on appelle échantillonneurs. Et on va essayer de définir les différents profils de torréfaction qu'on peut faire. Donc différents timings, différentes couleurs, voir un peu quel est le meilleur résultat pour quel type de café.
C'est le café le plus cher de la carte. On peut dire que c'est un café de luxe. Le prix ne refroidit pas trop vos clients ?
Évidemment, c'est un café de luxe, c'est un peu comme le caviar. Je dis pas que le luxe n'est pas forcément un standard. On va pas boire du Kopi Luwak ou du café de la Réunion tous les jours. C'est plutôt quelque chose d'un peu exceptionnel à goûter à l'occasion. On le vend beaucoup mieux d'ailleurs au moment des fêtes qu'au courant de l'année. Mais pour nous, ça a du sens aussi d'avoir un café de très haute qualité. On a des cafés d'entrée de gamme qui sont à des prix tout à fait raisonnables. Mais quelque part, pour notre plaisir aussi, c'est d'avoir des choses exceptionnelles qui sortent de l'ordinaire. Et le café de Skitty en fait partie, dû à leur petite récolte, à la rareté, à la demande mondiale. C'est enfin un café très coûteux, effectivement.
Est-ce que vous travaillez avec de grands chefs qui utilisent le café Bourbon pour le cuisiner dans leur restaurant ?
Avec des grands chefs, oui, on travaille avec des restaurants étoilés. On travaille avec le Comme Chez Soi, on travaille avec Chez Bonbon, notamment dans l'élaboration de certaines de ses recettes aussi. Et voilà, donc oui, on travaille avec des grands chefs aussi.
À La Réunion, le café, c'est le sens de l'accueil. En Belgique aussi ?
Oui, je pense. En fait, le Belge est un très gros consommateur de café. C'est aussi, dans certains cas, un carburant pour le travail, je pense, parce qu'on est un petit pays, mais on a une consommation de 50 000 tonnes annuelles. C'est pas moi qui suis le plus gros acteur sur le secteur, mais effectivement, c'est un produit de grande consommation, aussi bien pour l'accueil et aussi bien pour une pause pendant le travail.
Dans notre région, on consomme beaucoup de café. Est-ce que vous avez un conseil pour mieux le préparer ?
Et en fait, chaque café pourrait avoir son mode de préparation idéal et en même temps, chaque café peut être préparé de toutes les façons. Mais il y a déjà à chaque fois, dans chaque manière de faire le café, il y a des règles de l'art. Et donc aussi bien en slow coffee qu'en espresso, ça nécessite effectivement certaines connaissances ou un certain outillage pour le préparer le mieux possible. Maintenant, je dirais que les cafés en ordre général, plus fruités, plus floral, fonctionnera mieux en percolation, en slow coffee. Les cafés plus amers, plus corsés vont peut-être mieux fonctionner en espresso.
Eh bien, merci beaucoup, en tous les cas, Harold Ancio, d'avoir répondu à nos questions. Alors, je rappelle, alors on a encore une question, oui, on vient de me le signaler, c'est vrai. On a donc, je vous rappelle, un hashtag, hein, Maire des Indes, qui permet aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent en direct sur Radio Plus de réagir. Je rappelle, hein, Harold Ancio, que vous êtes torréfacteur et que vous avez repris récemment en l'enseigne Corica à Bruxelles, hein, c'est bien cela, hein.
Oui, c'est bien ça, ça fait déjà 8 ans.
Ça fait déjà 8 ans, voilà. Donc, ça fait un petit moment, effectivement. Alors, la question qu'on nous pose sur Internet, est-ce que votre établissement possède du Kopi Luwak, c'est ça ?
On propose aussi du Kopi Luwak, oui.
Et lequel est le plus apprécié parmi vos cafés ?
Alors, le plus vendu, c'est du Costa Rica Blue Mountain, qui est un café Arabica SHB, qui veut dire Sucli Harbin, lavé et contorifié de manière plutôt foncée, donc ça convient très bien pour l'espresso.
Eh bien, merci en tous les cas, Harold Ancio, d'avoir été en direct avec nous. Et Romy, alors pour les auditeurs qui voudraient goûter le Bourbon Pointu.
Oui, donc c'est 49 rue Marché au Poulet dans le centre-ville et 39 rue Caroli à XL.
Merci beaucoup, et également une page Facebook, je crois, hein.
Tout à fait. Maison Corica.
Maison Corica, tout simplement. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct sur Radio Plus. À mes côtés, j'ai Xavier, donc Elsmortel. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur Radio Plus. Alors, on m'a suggéré une question assez particulière quand même, hein, parce qu'il paraît que vous faites de la fleur de sel. Est-ce que vous allez bientôt faire de la fleur de sel au Bourbon Pointu ?
Alors, je fais de la fleur de sel, mais je fais aussi de la moutarde. Et je fais une moutarde au chocolat, mais on n'a pas encore commencé à faire une moutarde au café. Mais la prochaine fois que je vais à La Réunion, je ramènerai du Bourbon Pointu, j'essaierai d'en faire quelque chose, oui.
D'accord. Eh bien, écoutez, bah, en tout cas, la moutarde au chocolat, ça m'étonne aussi. Alors, je vais vous laisser répondre à des questions qui seront posées tout de suite par Romy et Wassila.
Comme les Slitty, vous travaillez déjà avec des chefs étoilés.
Oui.
Un ancien top chef, je crois.
Oui, Florent Laden, qui a un restaurant à Beauchep, juste à côté de Steenvoorde.
Autre point commun avec le café, le caviar de La Réunion. Vous vendez uniquement dans les épiceries fines et vous exportez à l'étranger comme à Dubaï.
Oui, à New York, à à Tokyo, un petit peu partout, et ça devrait se développer cette année, parce que quand on a un produit du Nord et qu'on essaye de le vendre dans le monde entier, si on tombe dans des épiceries tenues par des Français, ils sont très souvent du Nord de la France. Et ils sont très intéressés par avoir un produit de plus qui vienne du Nord de la France. Et leurs clients sont très intéressés aussi. Donc l'alchimie du commerce se fait très facilement.
Pour vous, mettre en valeur les goûts et les produits uniques de sa région, c'est une solution pour booster le tourisme?
C'est indispensable, je pense. Donc les touristes viennent. S'ils ne font que regarder les paysages ou la pluie ou le soleil, c'est déjà pas mal. Mais si en plus ils peuvent repartir avec un petit bout du pays, dans un petit pot, c'est bien mieux. Ils sont très contents.
Sidonie a interviewé Claude Berthier, c'est le directeur d'un hôtel 5 étoiles au nord de l'île Maurice. Et elle lui a demandé quelle place son hôtel accordait à l'environnement. Écoutez sa réponse.
On n'est pas 100% green, mais c'est définitivement notre tendance. Nous allons sacrifier un certain nombre de choses pour être de plus en plus green, mais on ne pourra pas être 100%.
Et vous le faites pour des considérations qui sont écologiques
Moi, je le fais par conviction, mais je le fais aussi surtout parce que c'est une philosophie qui est partagée par beaucoup de gens aujourd'hui, parmi notre clientèle. Et non seulement c'est utile, mais en plus de ça, je pense que c'est dans le vent.
À Maurice, on entend souvent que les plages n'appartiennent plus aux Mauriciens. C'est indispensable aujourd'hui de changer sa façon de consommer le tourisme?
Alors, je vais vous raconter une chose. Il y a un peu plus de 40 ans, j'allais souvent à l'île Maurice et je dormais sur la plage n'importe où. On était reçus, on avait accès à toutes les plages, sauf une. C'est la plage du Morne, qui est une plage au sud-ouest de l'île, qui était détenue par un grand hôtel. Aujourd'hui, on a pratiquement pas le moyen de longer la plage à des tas d'endroits. Donc je trouve que c'est fort dommage. L'île Maurice est un des plus beaux endroits du monde pour les plages. C'est de moins en moins accessible sans passer par les hôtels, les restaurants, etc. Donc, c'est un peu dommage quand on a connu une île Maurice très sauvage il y a un peu plus longtemps, quoi. La Réunion, par contre, quand vous y allez, vous pouvez accéder partout, parce que la loi française littoral interdit les constructions au bord de l'eau et les bords de plage sont toujours accessibles, quoi qu'il arrive, en France. À l'étranger, non, on peut privatiser des plages et là, c'est ennuyeux.
Dans la région, on a aussi des industries qui ont fermé. Le charbon, le textile. Aujourd'hui, comme à l'aventure du sucre, on cherche à recycler toutes ces friches, en lieu culturel ou touristique. Vous-même, vous avez recyclé à Antrim, je crois.
Oui. Vous savez beaucoup de choses. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté un vieux trois-mâts de 50 mètres de long et je l' ai transformé en bateau-restaurant. Il a vogué dans le port de Calais pendant quelques années. Il a disparu maintenant parce qu'il a brûlé. Sinon, c'est vrai que c'est du recyclage. C'est du bon recyclage. Et ça a attiré les touristes.
Vous avez d'autres exemples de réhabilitation réussie dans la région?
Oui, par exemple, il y a une très belle usine de dentelle à Calais qui a été transformée dans le musée de la dentelle. C'est un endroit, si vous passez par Calais, allez visiter le musée de la dentelle. C'est un très joli bâtiment et en plus, toutes les expositions à l'intérieur intéressent tout le monde.
Alors, il y a donc un auditeur ou une auditrice qui nous pose la question également sur Twitter, sur Internet. Est-ce que vous avez d'autres produits locaux à recommander dans la région?
Alors, je dirais, moi, je vends en épicerie fine et il y a plusieurs magasins qui m'ont toujours dit on trouve des produits du Nord, souvent un petit peu industriels, à vendre. Par contre, trouver des produits faits par des artisans, c'est assez difficile de les revendre dans les magasins parce que les artisans produisent peu. Vous avez des très bons miels, vous avez des très bonnes bières, forcément. Vous avez beaucoup de choses beaucoup de choses que vous pouvez acheter, mais trouver des produits locaux faits par des petits artisans en assez grande quantité pour en avoir partout, c'est assez rare finalement. Vous avez du chocolat, vous avez des choses comme ça, mais des produits très typiques, vous ne les trouvez pas. Mais il n'y a pas qu'ici, hein, partout.
Oui. Très bien. Prochaine question, oui.
Dans la première partie, on a entendu des témoignages de surfeurs. Qui a été votre passion? Xavier, le surf à La Réunion, c'est fini pour vous?
Alors, oui, je pense, mais pas à cause des requins. Quand j'ai pratiqué le surf il y a 40 ans, on était 40 ou 50 sur l'île à en faire. Ce qui fait qu'on se retrouvait très souvent seul sur une vague. J'y suis retourné il y a plusieurs fois et il y a 4 ans j'ai voulu y aller, c'était impossible parce qu'il y avait 80 personnes sur une petite vague, pas très intéressante. Et donc je pratique plus à La Réunion, je pratique ailleurs, en France, même dans le nord de la France, puisqu'on peut en faire à Huimereux, on peut en faire, mais dans les Landes, on a des endroits extraordinaires pour en faire. Mais à La Réunion, pour moi, c'est fini, et pas à cause des requins. Par contre, l'énorme concentration de surfeurs à La Réunion entraîne des problèmes, que les problèmes avec les requins sont bien plus importants, parce que les surfeurs vont à des endroits où... Il y a très longtemps, on n'aurait jamais mis le pied dans l'eau, parce qu'il y avait des risques.
J'avais travaillé là-bas, et quelles sont les relations entre les Réunionnais et la mer ?
Eh bien, il n'y avait pas de pêcheurs réunionnais. Les seuls pêcheurs qui pêchaient en dehors du lagon, et le lagon est très petit, étaient toujours des métropolitains qui venaient et qui montaient une petite entreprise de pêche et qui prenaient quelques ouvriers, quelques matelots réunionnais. Mais les Réunionnais n'allaient pas en mer, jamais. C'était, y a pas de construction navale. Il n'y avait pas de construction navale. Il y avait pas. Donc ils allaient à la plage uniquement dans la zone du lagon. Le dimanche, on allait au lagon de l'Ermitage pour se promener. Mais on n'allait pas dans l'eau. Les Réunionnais n'aimaient pas l'eau.
D'accord.
Vous produisez aujourd'hui la moutarde Thomsonville, le corsaire de Calais, une référence à la mer, donc même dans la moutarde.
Oh, on peut dire que c'est peut-être commercial, mais on a voulu faire une moutarde très forte et on lui a donné le nom d'un corsaire calaisien qui s'est bien battu contre les Anglais quand on les aimait pas. Maintenant on les aime bien, mais avant on les aimait pas.
Au départ, on voulait travailler sur le risque de submersion à La Réunion. Dans notre région, nos côtes sont aussi menacées ?
Ben, on entend dire que les falaises du Blanc-Nez s'effondrent régulièrement. Il y a des dangers d'éboulement. Est-ce qu'il y a un danger de submersion ? Je ne sais pas. Il paraît qu'il y a quelques milliers d'années, il y a eu un tsunami dans la région qui a dévasté même l'intérieur des terres et même l'Angleterre. Alors de où il venait, je ne sais pas, mais on en parle. J'en sais pas plus.
Voilà, on est toujours en direct, bien sûr, sur Radio Plus, depuis Nausicaa, Boulogne-sur-Mer. Voilà, et on a encore quelques questions à poser.
Vous connaissez Michel Guimard ? Oui. Vous l'avez eu au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Que pense-t-il du chantier de la nouvelle route littorale ?
Alors, Michel Guimard, est un scaphandrier qui a une entreprise de plongée à la Réunion. Il est un petit peu plus âgé que moi et surtout, il a été mon professeur de plongée quand j'ai appris la plongée, parce que je suis aussi plongeur. Et vous pouvez me répéter la question parce que je l'ai oublié entre deux.
Que pense-t-il de la nouvelle route littorale ?
Alors, il trouve que c'est un chantier extraordinaire. C'est un des plus beaux chantiers qu'il ait jamais fait. Et il y a surtout, au niveau de ce chantier, la région Réunion a mis énormément d'argent. Je crois que c'est la somme de 70 millions d'euros sur un budget de plusieurs milliards pour l'environnement. Donc quand ils font des travaux qui vont être bruyants, comme des explosions, en fait ce ne sont pas exactement des explosions, il y a toujours dans les jours qui précèdent énormément de surveillance de la mer par des bateaux, par des ULM, de façon à être sûr qu'il n'y ait pas de bande dauphins ou de baleines. Et si jamais il y en a, le chantier est retardé. Ce n'est pas grave.
Et je crois aussi savoir que la route, cette nouvelle route du littoral, évite soigneusement les récifs de corail. Hein,
oui, ça a été surveillé. Et bien sûr, tout le long de la route, c'est toute cette zone en bas de falaise, de la falaise entre la Possession et Saint-Denis. Et il y a quand même des pâtés de coraux. Mais ils ont fait tout pour éviter le maximum de désagréments.
Merci beaucoup Xavier Elsmortel d'avoir répondu à nos questions, puis surtout aux questions de Nafel et d'Amandine. En matière d'énergie renouvelable, on pourrait s'inspirer aussi de l'expérience de Barzour. On a moins de soleil que là-bas, mais on a l'Umiwatt à Los Angeles. Alors l'Umiwatt, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait un centre d'expérimentation solaire unique. Et François-Xavier Calins détaille ce que pourrait être notre mix énergétique. Il a été interviewé en mars 2017 par l'ESSAC-F du Collège Curie de Liévin.
Ce qui est sûr, c'est que le mix énergétique de demain, ce sera un mélange, ce sera un mix où il y aura du photovoltaïque en grande partie puisqu'on a une rentabilité très forte et une possibilité de le mettre facilement sur les maisons individuelles. On aura de l'éolien, plutôt de grande puissance, comme on va installer à Dunkerque en offshore. Puis on aura de la méthanisation qui produira également de l'électricité et on aura du nucléaire.
Et nous sommes en ligne avec Sidonie Adou, bonjour.
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 Est-ce que c'est plus compliqué de travailler avec des élèves comme nous qu'avec des professionnels?
Alors nous, c'est pas plus compliqué, c'est différent. Mais j'ai l'impression, quand je travaille pour Globe Reportage, j'ai pas l'impression de faire mon métier différemment que je le ferais pour un média professionnel. En revanche, travailler avec un public plus jeune, ça demande, je trouve que parfois c'est même un peu plus difficile pour essayer de faire des phrases qui sont simples. Expliquer les choses de manière compliquée, ça c'est toujours très très facile, mais essayer de vulgariser tout en respectant les propos dans le sujet, c'est des fois un peu plus difficile. Donc ça demande beaucoup d'exigence, mais c'est à peu près pareil.
Certains sujets étaient assez sensibles. Y a-t-il des questions que vous n'avez pas pu poser?
Non, j'ai posé toutes les questions. Les questionnaires avaient été bien préparés et c'est ce qui a permis de poser toutes les questions. Et puis toutes les questions se posent, après libre aux interlocuteurs de ne pas y répondre s'ils n'ont pas envie. Mais généralement, les interlocuteurs se sont prêtés au jeu et ils ont répondu à toutes les questions des clubs reporters.
Après 6 semaines passées en mer des Indes, quelle image en gardez-vous? Est-ce que vous avez des souvenirs marquants?
Alors j'ai plein de souvenirs évidemment parce que j'y suis restée comme tu as dit 6 semaines. Des souvenirs marquants, c'est des rencontres, parce que ce métier c'est aussi des rencontres. Donc des fois avec certains interlocuteurs on s'entend bien, on sympathise même. Par exemple, je pense à la conteuse Isabelle Chim que je salue, qui est devenue quelqu'un qui m'a beaucoup aidée après sur le terrain. Après, c'est des souvenirs de paysages, parce que la Réunion, c'est très beau, Maurice aussi, c'est le souvenir de la diversité de ces îles qui m'a beaucoup plu, moi. Et puis après, c'est aussi les contraintes de vivre sur une île dans l'océan Indien, donc les cyclones, hein. Il y a eu un cyclone juste avant que j'arrive, je suis repartie avec un cyclone, mais ça fait aussi effectivement plein de souvenirs.
Vous êtes d'abord photographe, vous en avez profité pour faire votre propre reportage là-bas?
Alors non. Parce que j'ai pas eu le temps, parce que Globe Reporter, ça prend toutes mes journées quand je suis là-bas et on avait à peu près 70 questionnaires à remplir, ça veut dire 70 interlocuteurs, voire des fois plusieurs interlocuteurs pour un questionnaire. Donc maintenant, j'ai fait exclusivement les reportages qui avaient été commandés par les Globe Reporters.
Vous êtes originaire de Boulogne. Avez-vous trouvé des points communs entre la Réunion et notre région?
Alors, c'est très différent quand même, je peux le dire. Après, le seul point commun que je verrais, ça serait le rapport à la mer, au littoral, à la nature aussi. Je pense qu'on a la chance sur la Côte d'Opale d'avoir depuis longtemps mis en place des aires protégées, des parcs régionaux, qui peuvent... je pense qu'on a une vraie conscience environnementale sur la côte, on est conscient d'avoir des plages qui sont belles, d'avoir des dunes, d'avoir des falaises qu'il faut préserver. Donc ça, il y avait cette même mentalité à La Réunion. Il y a un parc national, il y a une aire marine protégée. Après, ça je pense que c'est pas propre ni à La Réunion ni à la Côte d'Opale, donc à côté de ça reste quand même très différent, c'est pas du tout... Oui, non. Il n'y a pas beaucoup de similitudes, je dirais.
Syrie, Turquie, Afrique du Sud, Albanie. Vous êtes une reporter baroudeuse. Vous avez déjà la destination de votre prochain reportage?
Oui, alors mon prochain reportage, ce sera en juillet et je pars en Bosnie pour travailler avec deux autres journalistes, et on s'en va faire un reportage sur la construction de barrages dans les rivières bosniaques. Donc c'est un sujet environnemental avec... on va essayer de suivre un collectif qui milite contre la construction de ces barrages. Donc, prochaine destination, l'Europe et la Bosnie.
Vous dites que pour vous, le plus important, c'est de raconter des histoires. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi grâce à votre travail. Et on aimerait vous dire un très grand merci pour tout le travail que vous avez fourni pour nous.
Un très grand merci à vous, Simonie, d'avoir été notre envoyé spécial.
Bah, merci à vous et bravo à vous pour votre travail. Bravo, vraiment.
Merci à toutes et à tous. Merci Sidonie Adou d'avoir répondu à nos questions. Alors Sidonie, je rappelle qu'on peut découvrir vos photos reportages sur sidonieadou.com, c'est bien cela?
Oui, c'est ça, ouais.
Et pour les classes donc qui ont envie de se lancer dans Globe Reporter, c'est le moment de s'inscrire, je crois, sur globereporter.org. Est-ce qu'il y a des dates limites d'inscription? Est-ce que ça vous le savez ou pas?
Là, c'est en ce moment qu'il faut s'inscrire. Après la date limite, je ne l'ai pas en tête, mais tout est inscrit sur le site www.globe-reporter.org.
Oui.
Et les destinations de l'année prochaine sont déjà choisies, c'est la Guinée-Conakry et la Roumanie. Voilà, donc là, c'est en ce moment pour les professeurs et pour les établissements intéressés qu'ils aillent sur le site. Et puis, il y a l'adresse mail, il y a les contacts, il y a tout ce qu'il faut pour rechercher les informations. Et les deux prochaines missions, ce sera Guinée-Conakry et Roumanie.
Eh bien, merci beaucoup, en tous les cas, Sidonie, d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt.
Eh bien, merci à vous. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Ce sera donc évidemment le mot de la fin. Un très grand merci aux équipes de Nausicaa qui nous ont fait confiance, nous ont accueillis sur leur plateau professionnel. Merci également à Sidonie Adou, Globe Reporter, et à tous les intervenants, à Maurice et à La Réunion pour cette belle aventure. Et merci bien sûr à nos invités en plateau et hors antenne qui ont répondu à nos questions, ainsi qu'au public et aux auditeurs qui ont réagi sur Twitter. C'était une émission donc proposée par la classe média ici Curie en partenariat avec le Clémy de Lille. Merci aux élèves et à leurs professeurs qui l'ont préparé. Vous pouvez retrouver le podcast très prochainement sur le site www.radioplus.fr. Les liens et les infos également sur notre site. Et dans quelques instants sur Radio Plus, ce sera un programme musical avec à 17h localement plus. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à l'écoute des programmes du 104.3.